Confrères, consœurs, vous allez vous souvenir que le soir d'ouverture, il y avait deux artistes qui avaient été invités ici aujourd'hui, cette semaine. C'est Kara Shaughnessy et Queen Ka. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'inviter ces artistes avec nous cette semaine? Eh bien, c'est parce que les artistes constituent une partie essentielle de notre lutte, parce qu'elles représentent la dignité, l'égalité et le respect. Et elles nous donnent une façon de mieux rêver et nous donner un esprit de résistance. Ils peuvent nous solidariser et souligner ce que nous avons en commun pour qu'on puisse construire des ponts entre nous. Ces deux artistes ont écouté la conférence depuis quelques jours et puis elles apprennent avec vous et elles vont nous présenter leurs interprétations et leurs impressions de ce qu'elles ont entendu. Mais juste avant qu'elles prennent la parole, je vous donne quelques statistiques. Les revenus des artistes sont très, très bas. En moyenne, c'est 23 000 $ par an. Il y a plus de 10 000 plus d'artistes femmes que d'hommes, mais les hommes gagnent probablement 10 000 $ de plus par an que les femmes. La majorité des artistes n'ont pas d'avantages sociaux, pas de rente, pas de sécurité, pas de santé, sécurité, et vous connaissez tout ce que ça veut dire. Les femmes comme nous sont des travailleurs qui luttent pour de meilleures conditions de vie et de travail, l'équité salariale, des avantages sociaux, la santé, sécurité au travail, le respect et une réglementation dans un secteur qui n'a presque pas de réglementation. Alors, on les accueille, Queen Ka et Kara Shaughnessy. Et d'abord, on va entendre parler de Queen Ka.
Comme elle a si bien dit, je suis une femme artiste d'origine tunisienne au Québec, donc vous pouvez imaginer à quel point j'ai un petit salaire. Donc, sur ça, je voulais vous remercier tous et toutes pour cette conférence. J'ai appris beaucoup et surtout, je suis assez émue et je vous admire énormément. Donc, j'ai vraiment... moi, je vais vous applaudir très fort parce que c'est grâce à vous que nos conditions, notre génération, vont s'améliorer. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre travail. C'est avec des petites batailles qu'on va réussir. Merci. Alors, j'ai fait deux textes. Le premier s'intitule « À l'hôte ». Ode à l'hôte qui met la table avec soin et soie, mais qui jamais ne s'y assoit. Qui, malgré l'heure triste, accueille les hautains, les rebelles, mais qui ne cueille que les tais-toi et sois belle. Qui escorte et accompagne en toute parité, mais qui même dans une cage d'escalier n'est pas en sécurité. Ode à cette hôte qui garde, rit, garde le sourire pour ceux qui font face à la maladie, qui soigne et veille sur ses pensionnaires alors que sa pension s'envoie en l'air. Cette hôte qui nuit et jour bûche, mais se prend parfois des coups de pied et trébuche, pour qui ce n'est pas un toit, mais un bon plancher qu'il faut pour rester dans sa propriété. Parce qu'un chez-soi, c'est sa priorité. Parce que ses choix sont sa priorité. Ode à cette hôte qui reçoit, nourrit et loge, même si parfois ça l'irrite, mais qui rarement reçoit les éloges qu'elle mérite. Mais elle a la foi en ses bons voisins, pour l'aider une fois dans le besoin, à prendre les marches vers le grenier, apprendre à japper, à grogner quand le territoire est en danger, à voir plus haut, plus loin, à prendre la main tendue pour explorer d'autres étendues d'eau, sans inquiétude, d'autres continents, d'autres notes, même celles des études, parce qu'elles répondent à loisir au rôle de hôte, femme et mère, et puissent choisir quand elles ouvrent les portes de leur seconde chaumière et quand elles les referment sans qu'en aucun cas à leur contrat on mette un terme. Merci. Je voudrais aussi remercier les traducteurs, parce que s'il y a quelque chose qui est dur à traduire, c'est bien de la poésie. Donc, j'aimerais les remercier. Je sais que c'est pas évident. Donc, voilà. Le deuxième texte s'intitule « La fin ». Disons qu'il a été inspiré avec toute cette fin que vous avez de réussir et qui est la mienne aussi. J'ai faim. Une faim d'enfant, de fillette, de dame. Une faim de chatte, de tigresse. Une faim de femme. J'ai la faim d'après-jeûne. Une fois le soleil couché, l'esprit repu, mais le ventre en cri. J'ai une faim d'après-régime qui reste trop longtemps soutenue, que trop longtemps on comprime. Une faim de gorge ligotée, une faim d'orgue, une faim d'égalité. J'ai faim. Alors que depuis la nuit des temps, depuis les mille et une journées, nous, chattes, dames, fillettes, femmes, lionnes et tigresses, avons donné à manger par nos seins, nos mains, notre ô combien innée générosité. Mais, même à bout de salive, le ventre creux, j'irai au front. Je ne mangerai plus les restants que me jette le patron. Je ne brandirai pas la bouche ouverte à quémander la logique du nombre. Je ne quêterai pas mon dû, surtout si la bataille est ardue. Car il faut sortir de l'ombre, même si j'ai faim à plier les genoux, moi et les autres resteront debout. Alors, pas la peine de tenter, de nous tenter avec vos propositions à la bouffe rapide. Nous, on veut du solide, du concret, du limpide. Plus de culpabilité, d'insultes, plus de gavage, de lavage de cerveau. Même la plus grosse des vaches doit nourrir ses veaux. J'ai faim, mais ne flancherai pas. J'ai faim, mais pour une fois, je ne suis pas seule à avoir de l'appétit. Je ne suis pas seule à avoir une faim de yéti. De faim en faim, ici, là-bas, de pas en pas et de bouche en bouche, nous tiendrons bientôt le grand bout de la louche, libre de se servir un grand bol d'équilibre. Merci à vous.
Thank you very much, Queen Ka. Merci beaucoup. That was amazing. I just have to ask.
C'était fantastique. Est-ce que nous pourrons afficher ces poèmes dans notre compte-rendu de la conférence? Oui. Et c'est bon. Elle donne des droits au SFP. Droits d'auteur au SFP, quoi. Donc, les poèmes vont figurer dans le compte-rendu. Ensuite, il y a Kira Shaughnessy. Alors, bonjour vous tous. C'est tout un honneur pour moi. J'ai beaucoup appris au cours de cette conférence. C'est vraiment fantastique d'entendre vos expériences et d'avoir votre partage. Ce sont des poèmes très longs. Le premier, j'ai écrit parce que j'étais affecté par les discussions autour de la violence et harcèlement au milieu du travail. J'ai une amie qui, à l'heure actuelle, passe une période très difficile. Elle travaille à un cégep de Montréal et elle était victime de harcèlement sexuel aux mains de sa mère et elle est en pleine médiation. Ça m'a beaucoup dérangé. Alors, quand j'entendais parler de ça ces derniers jours, ça m'a tout rappelé, son histoire. Alors, j'aime pas donner un titre à mes poèmes, alors donc il n'y a pas de titre. Il y a une raison pour expliquer la ressemblance entre violence et silence, pourquoi les deux sont tellement associés, car nous essayons de trouver le pourquoi, le comment, il n'y a pas de bonne raison, il n'y a pas de bonnes paroles, il n'y a pas de bonnes actions, seulement une sensation dans la gorge, les cris de « comment est-ce que tu as pu? Pourquoi est-ce que tu as pu? » Toujours « comment? Pourquoi? » Depuis 2 ans, elle travaillait sous sa tutelle, son poste était très précaire, pas de salaire. Elle n'était pas assez pâle, assez homme, assez vieux, vieille pour être prise au sérieux. Elle est malade maintenant. Alors, ah, c'est les effets de ce poison, de cette poison systémique, ces actes d'ignorance où on ne veut pas accepter la femme à sa parole. Nous ne sommes que des objets sexuels pour ces hommes. Exagération, toute excuse est possible pour permettre aux hommes de se tourner les yeux. Décision de 10 000 étudiants, microcosme de la justice que nous voyons tous les jours, de tous les ans, depuis toujours, comme si c'était un jeu, comme si il fallait calculer ou comprendre quoi que ce soit. Nous savons tous que la violence ne fait pas partie de la description de tâches. 6 femmes se sont plaintes, et qu'est-ce qu'on a eu? Une suspension d'honnêteté et bien sûr un avancement professionnel. En fin de compte, je suis abasourdi au lit pendant 4 jours, paralysé. Et je me dis, comment, c'est pas ça que j'ai voulu dans ma carrière. Laissez-moi faire un parallèle. Laissez-moi vous rappeler à des divergences et disparités trop souvent ignorées. Voici la question. Comment un pays basé, fondé sur le génocide, peut-il aller au-delà de cela? Comment donc nettoyer notre structure? Comment donc faire tout ça? Comment donc faire en sorte que la violence ne figure plus dans notre vie, dans notre politique? Des coupures de 5 milliards de dollars, éducation indigène, autochtone, éducation, c'est exactement le contraire de la vraie réalité. Les Autochtones vivent sur des territoires tellement petits qu'il n'y a même pas de générosité du tout. Comment donc résoudre la question de la violence d'un gouvernement qui refuse d'avouer les droits des Autochtones tout en abusant et tout en marginalisant les femmes nourries par la grand-mère des Autochtones qui ont pris au blanc à survivre l'hiver canadien, qui nous ont accueillis chez nous? Pourquoi est-ce que nous continuons à nous permettre d'être victimes des abus des politiciens qui sont censés nous représenter? Nous savons bien que la violence ne devrait pas être tolérée. Est-ce que nous reconnaissons qu'on ignore la violence, que ça fait partie des gouvernements, que la violence au milieu du travail est le résultat de quelque chose de systémique? La haine, la peur et tout ce que la femme représente, tout ce que représente le travail des femmes, cette terre vivante, ça donne lieu à des violences qui ne sont pas dans la description de tâches. Le harcèlement ne devrait pas être notre sort parce que nous sommes femmes, consoeurs, confrères. Je vous dis que le moment est venu de rompre le silence, le moment est venu de se faire entendre et que les systèmes soit responsabilisé, que le lien soit fait afin de faire disparaître les murs et les objections pour mettre fin à ce silence, ce cycle de violence invisible.
Thank you. Ooh, I'm shaking.
Je tremble. Ici, c'est un poème plus général. Les femmes du monde, unissez-vous. Les changements s'en viennent. Les femmes du monde, venez, unissez-vous. Et rajoutez votre vous à cette chorale des millions. On attend depuis longtemps, trop longtemps, Nous attendons depuis longtemps qu'on sait. Depuis trop longtemps, nous naviguons ces eaux comme des extraterrestres, comme des étrangers, dans l'incertitude. Nous faisons de notre mieux, la tête baissée, pour ne pas être victime des coups de fouet qui ont calmé, qui ont rendu silentes nos grands-mères, grands-pères, nos ancêtres. Nous croyons à la différence et nous avons maintenant une démarche fatiguée. Nous sommes exploités parce que nous soignons trop les autres. Nous acceptons les obligations, nos responsabilités, la dureté d'être une femme dans sa carapace. Notre capacité de survie est immense, sans fin. Et un homme qui dit « c'est un monde d'hommes » pour que nous soyons toujours domestiques. Allez-y, les filles, raidez-vous, raidez les chines, continuez. Mais la justice ne peut pas se faire attendre. Et je vois la liberté sur les lèvres de tous ceux qui sont dans cette salle. Et la justice, c'est nous. Nous refusons d'accepter la description des champs. Il faut créer une langue comprise de tous et une nouvelle façon de dialoguer, de discuter, de faire partie de la réalité. La patriarchie est dysfonctionnelle, créée par des anciens dans un monde que je rejette. La réalité, c'est que la mondialisation ne sauve personne. De fait, elle est la cause de toutes sortes de catastrophes, la perte de beaucoup de vies, de langues, de liberté, des langues ravagés pour le profit des autres, le profit de ceux qui font partie du bon club, qui ont la bonne auto, qui parlent la bonne langue, qui sont de la bonne couleur, qui sont nés dans la bonne famille, qui vivent dans le bon pays, qui ont des connexions. La justice ne peut plus se faire attendre. Nous allons faire une percée dans ces bastions des hommes, des valeurs chères aux vieux bonhommes. Tout négocier derrière des portes fermées. La justice, c'est nous qui choisissons le changement et non pas le monde des affaires traditionnelles. Nous voulons l'égalité, la prévention et l'élimination de la pauvreté comme objectifs principaux pour nous, nos enfants, les enfants de nos enfants. La justice, c'est nos enfants et leurs enfants et leurs enfants, les enfants de leurs enfants. Qui vivre dans la dignité et dans la prospérité, la santé, ces petits-enfants. Et nous voulons avoir la dignité de les faire venir au monde. Ma prière, c'est que notre génération verra l'équilibre, que nous verrons la guérison de cette dualité qui maintient cette illusion de séparation. Non, nous ne voulons plus attendre. Nous avons notre place à la table. Et vous voyez maintenant qu'il s'agit de la fin de la justice ancrée dans la connaissance qu'un autre monde est possible. Ce monde est même en train de devenir et c'est manifesté dans les yeux de chaque mère qui connaît sa valeur intrinsèque. Chaque personne qui travaille pour les autres d'amour. Les anciens paradigmes seront remplacés par d'autres paradigmes et la robustesse et la solidarité des gens, tout sera fondé sur des choses que nous connaissions dans le passé. Respect et la reconnaissance que personne n'est libre. Personne n'est libre si un de nous est enchaîné. Personne n'est libre. Et pour embrasser la valeur de tous les êtres, il faut un changement systémique et transformationnel. Voilà pourquoi la température monte et le climat de la Terre est vraiment à point pour changer les choses. Et nos convictions vont accélérer le changement. La croissance n'est pas sans fin. Le cycle de vie ne peut pas être évité. Nous savons bien qu'il faut se tenir debout. Il faut trouver la force dans l'amour solidaire afin de permettre ces chansons de liberté clamées sur tous les toits, dans tous les cœurs. Et nous chanterons Les gens du monde, venez ensemble, le changement s'en vient. Personne du monde, venez ensemble, unissez-vous, rajoutez votre voix à la chorale. Nous attendons depuis très longtemps, très longtemps. Nous attendons depuis très longtemps, mais les changements s'en viennent.